Aujourd'hui, pour ce magazine de midi, nous avons une invitée, c'est Cici Chao. Bonjour Cici.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue dans nos studios et nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'un album, qui n'est pas encore sorti.
Pas encore, ouais. C'est prévu en juin 2021.
Et cet album, c'est Lavande et Jasmin.
Lavande et Jasmin, et en chinois, s'appelle Zhi Zhen Zhao Xi.
Et c'est une proposition originale puisque c'est un mélange de deux types de musique, de deux cultures quelque part.
Exactement, ouais.
La Chine et la Provence.
La Chine et la Provence, et plutôt la traditionnelle de la Chine et le traditionnel provençal.
On est sur des musiques traditionnelles qui se mélangent.
On pourrait dire qu'on utilise un instrument traditionnel qui crée une sorte de musique moderne, parce que tous ces morceaux, c'est nos propres compositions, en fait.
Mmh. Ouais. Alors, ce projet est en cours, comme on vient de le dire. Comment est né ce projet, cette rencontre?
Ce projet, c'était commencé à partir de 2014. En fait, de 2013 au 2014, j'ai eu une subvention de la région PACA sur ma création musicale de mes recherches. Et donc, moi, j'ai sélectionné la musique provençale dans mon recherche et aussi la musique de fado portugaise, traditionnelle aussi, et aussi sur musique classique. Donc ça, c'est les trois sujets dans mon recherche. Et donc, pendant que je fais la recherche sur la musique provençale, je demande beaucoup d'experts dans la musique provençale pour savoir c'est quoi exactement la musique provençale et la langue provençale. Ouais. Voilà. Et après, j'ai écouté beaucoup de disques dans la bibliothèque de Marseille et il y a un morceau qui me tire beaucoup et donc s'appelle Morisca. Et en fait, en ce moment-là, je ne savais pas que c'est un morceau qui est composé par Mikael Montanaro. Et par contre, Mikael, c'est un grand compositeur de musique provençale que toutes les autres musiciennes qui connaissent la musique provençale, qui me conseillent de voir, de travailler ensemble. Et donc, comme je croisais plusieurs fois Mikael au Papalmet de World Music de Marseille, comme je joue aussi au Festival Papalmet en 2014, je croisais plusieurs fois Mikael, donc je lui posais la question, je vois est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et donc, c'est ça que ça crée notre rencontre.
Et Mickey Montanero, il joue du gaboulet, qui est une flûte à bec provençale, et du tambourin.
Mm-hmm, exactement, ouais. Et dans notre album, tous les deux, on chante aussi. Donc Mika, il chante en provençal, et moi aussi, je chante en provençal et en chinois.
Et vous jouez un instrument, je vous laisse prononcer le nom, j'ai peur de l'écorcher.
C'est Gu Zhen.
Gu Zhen. Vous pouvez me décrire en quelques mots.
D'accord.
À quoi ressemble cet instrument?
Ouais, Gu, ça veut dire « ancienne ». Et Zhen, ça veut dire sitar. Donc, parmi tous les instruments traditionnels chinois, on n'a que deux instruments qui prononcés vraiment avec le mot ancienne. Et tous les deux, c'est le sitar, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire vraiment, c'est un instrument vraiment très ancien.
Peut-être que pour commencer, bien, nous allons écouter un titre. C'est la meilleure manière d'illustrer nos propos, c'est de se rendre compte ce que ça donne. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le morceau que nous allons écouter, Bella Kala?
Oui.
Pareil, est-ce que je le prononce bien, c'est ça,
Bella
Kala?
Je pense que c'est prononcé en provençal. Voilà.
Oui, je ne parle pas non plus le provençal couramment.
Ok. Et moi, je donnais un nom chinois à ce morceau. Ça s'appelle Zhi Wo Xin Ai De. Ça veut dire True. The One I Love. Et en fait, c'est un morceau que Mikael m'expliquait, c'est un morceau traditionnel provençal. Et le moment quand il me fait écouter, on se dit, ouais, c'est très intéressant, on aime bien travailler dessus. Donc moi, je fais les arrangements sur ce morceau, donc donner une nouvelle vie à ce morceau, que je écris les paroles chinoises dessus et je chantais dessus aussi. Et aussi que je fais l'arrangement de mon instrument dessus, en fait. Voilà.
Et ce titre, on le trouvera dans le prochain album?
Exactement, oui, dans notre prochain album. Mm-hmm. Et si j'ai bien compris, dans ce morceau traditionnel provençal, Mika m'expliquait que ça racontait une histoire de l'amour, en fait. une jeune fille de son amour. C'est pour ça que quand je écris ma parole dessus, avec mes expériences de ma vie, j'ai écrit les paroles dessus un peu romantique et aussi d'avoir un peu la tristesse par rapport à l'amour, tout ça en fait, et une expérience de la vie en fait. Voilà. Mm-hmm. Et si le public comprend le chinois, il va comprendre les paroles que je chante. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi en chinois « 自我, 心爱的, to the one I love ».
情真一曲一千年，涉世知深浅。人生若只如初见，桃花映红颜。情真一曲一千年。 jardin de mon père, li attende au pin. Tous les auxerres qui cantent, li façonnis. Franc de la belle caille et la perdis. Aïe caille, belle caille, un test unis. Aïe caille, belle caille, que li a dédin. Il y a quatre damoiselles et il y a aussi une qui va à l'aigle et l'autre au vin. Et l'autre fait la dorme pour bien dormir. Et là, dans quelle plane, il y a un bras. Les perdis, les cailles, les vambeca. Prenez mon arbre, reste, li vaut tira. N'en ai tira su quatre. Les ai mancada. Ai tira su ma mia. Leur l'ai macada. Ai mia, paura mia, t'ai ben fa mal. Un po' de mal, non gaia, mai ne murai. A quel que tu as sa mia, deu pas restar ici. Deu anna à la guerre, l'urei servi. C'est pas si di la ville, me penjaran. C'est pas si di l'eau rose, me negaran. Au beau mitando au rose, ause suna, l'éclat de paura mia, cavie maca. Cavier maca, mes amours. Cavier maca.
C'est un extrait de ce titre, puisqu'il y a encore plusieurs minutes à découvrir. Nous laisserons les auditrices et les auditeurs le découvrir dans votre album à sortir prochainement, L'Avent des Jasmins. C'est presque du conte quand on écoute cette musique.
Exactement.
Ces paroles.
Ouais, exactement. Il y a une partie d'histoire qui est racontée par la langue chinoise. Et après, il y a une partie de l'histoire qui raconte par la langue provençale.
Et dans l'ensemble des titres de l'album, c'est de la même veine, dans le même style, même si nous allons écouter d'autres titres tout à l'heure.
Pas tout à fait. Chaque morceau sont indépendantes, avec son style indépendant aussi.
Mais il y a une dimension conte, justement, de vouloir raconter une histoire à chaque fois.
C'est vrai que chaque morceau, quand on écrit, on pensait une histoire ou bien pensait une image ou quelque chose en fait, quand on composait le morceau.
C'est comme ça que vous avez travaillé ? Vous pensiez à une histoire et ce sont des histoires que vous avez vous inventées ou ce sont des histoires traditionnelles ou un mélange des deux ?
Sur le morceau qu'on vient d'écouter, c'est une histoire traditionnelle. Mais moi, quand je écris les paroles en chinois, j'ai inventé une histoire. Voilà. Et après, sur les autres morceaux, des fois, c'est qu'on imaginait quelque chose. Ça peut être, par exemple, on a un morceau qui s'appelle Le Matin. Donc, on dit, ben, maintenant, on pense le matin, on va jouer. Voilà. Ou bien, c'est la lune. Et des fois, c'est que après, on composait le morceau et qu'on écoute le morceau. Et on se dit, ah, tiens, ça, c'est. Ça se rappelle bien le cheval Mongoli, par exemple, ou une autre quelque chose, et on aime bien l'appeler comme ça.
Vous avez combien de titres prévus sur cet album ?
On a 8 morceaux dans l'album.
8 morceaux ?
Oui.
D'accord. Alors peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet instrument traditionnel que vous jouez ?
Ah, guzheng. Guzheng, c'est un instrument très populaire du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et dans notre histoire, c'est un dieu qui crée cet instrument. Voilà. Donc ça veut dire que depuis on pourrait dire le moment quand elle était très populaire jusque maintenant. Il y a déjà 3000 ans d'expérience en écrire, avec les partitions, tout ça en fait.
Et comment vous en êtes arrivé dans votre histoire à jouer de cet instrument?
Moi, je suis d'origine Wuhan, ville traditionnelle chinoise, qui est...
Berceau de la musique traditionnelle chinoise?
De la culture de Chou, ouais, exactement. Et donc, on a des musées maintenant. On peut trouver encore à Wuhan des musées qui ont beaucoup de sitar traditionnelles chinoises. Donc, il y a le Guzheng, il y a son cousin aussi, Se, par exemple, qui rassemble le Guzheng, mais avec un petit peu différent la forme et différents nombres de cordes. Et après, on a des instruments plus petits, le Guqing, voilà. Donc, dans le musée, je pense que c'est quand même le seul musée en Chine. On présente quand même un instrument traditionnel chinois. Et on a encore des spectacles, voilà.
C'est un instrument populaire, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui en jouent, ou c'est assez
ancien avant, oui. Ancien avant, donc il y avait 3000 ans, on pourrait dire ça, dans cette époque-là, dans la dynastie Qing. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la dynastie chinoise. Donc...
Moyennement.
D'accord. Est-ce que ça vous dit le soldat souterrain?
Il va falloir expliquer. D'accord. Et puis si moi je connais, il faudra d'autres manières expliquer pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent.
D'accord. Alors, je pense que dans le film chinois, vous voyez souvent que voilà, il y a des soldats souterrains qui est construit par la terre, voilà, un peu de magie, tout ça. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que dans cette époque-là, c'est la dynastie Qing, donc ça veut dire que en chinois, on dit que c'est la première dynastie qui a l'empereur en Chine. Voilà. Et donc, c'est dans cette époque-là, le guzheng, l'instrument que je joue, elle était très très populaire. Donc, c'est presque tout le monde dans l'autre partie de la société qui sait jouer cet instrument. Voilà. On dit aussi que c'est plutôt des hommes qui jouent cet instrument. Et aussi, il y a de grandes ministres ou des générales qui sont souvent des grandes musiciennes, grandes maîtres de cet instrument. Voilà. Et d'ailleurs, on a des concours pour être fonctionnaire chinois et il faut passer plusieurs sujets d'examen. Donc, il y a la musique aussi et c'est par son instrument aussi. C'est un instrument, on pourrait, on disait qu'on entend bien le cœur de la personne, qu'on entend bien qu'est-ce qu'il est vraiment pensé, est-ce que c'est quelqu'un qui est bien, tout ça. Et il y a beaucoup d'histoires avec cet instrument.
Il serait comme... révélateur de l'intériorité d'une personne.
Oui, on entend. Et aussi, est-ce qu'il est vraiment pensé quelque chose? Ou bien, par exemple, on a une histoire qui raconte une vraie histoire. Un ministre chinois qui avait utilisé guzheng pour le sitar, voilà. Mmh. À ce moment-là, peut-être c'est le petit guzheng aussi, voilà. C'est tous la famille de sitar. Il utilise le sitar pour sauver les peuples. Juste passe par la musique.
Donc ça fait aussi partie d'un imaginaire et de légende populaire en Chine, cet instrument. Il fait partie d'un imaginaire et d'une culture. Il est très ancré dans la culture chinoise, cet instrument.
Exactement. C'est très profond dans la culture traditionnelle chinoise, ouais.
Et vous disiez tout à l'heure qu'il était davantage joué par des hommes. Du coup, c'est assez exceptionnel que vous, en tant que femme, vous... jouiez de cet instrument ou aujourd'hui il y a plein de femmes qui en jouent?
Ah, aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui se jouent cet instrument et bien sûr il y a des hommes aussi, ouais. Mmh. Par exemple, moi j'ai un élève, c'est un petit garçon aussi qui est en train de prendre le guzheng, ouais. Maintenant c'est plus en plus à la mode.
Et vous avez commencé tôt à jouer de cet instrument, votre histoire avec cet instrument?
J'ai commencé à partir de 6 ans en fait.
Ah oui, vous avez commencé très petite.
Ouais.
Et il vous accompagne depuis lors, tout au long de votre vie.
Exactement. Ouais.
Et alors aujourd'hui, vous l'enseignez en France?
Oui, exactement. J'ai enseigné en France. Et avant, j'ai enseigné aux États-Unis. Et quand j'étais en Chine, j'ai commencé mon carrière à enseigner ce instrument à partir de 17 ans, en fait, quand j'ai eu le premier prix en Chine. Depuis en ce moment-là, j'ai déjà commencé à enseigner aux enfants et les adultes. Et aussi aider les élèves qui passent leur concours au conservatoire chinois ou rentrer dans la grande université, tout ça en fait. Donc je commence mon carrière à partir là.
Et comment vous en êtes venu à enseigner en France?
Depuis que je retourne aux États-Unis, parce qu'avant j'ai enseigné aux États-Unis au conservatoire pour la musique traditionnelle chinoise, je retourne en France à partir de 2011. Au moment quand je rentrais, reviens en France, j'ai un visa de compétences et talents. C'est pour mon projet que je vais développer la musique traditionnelle chinoise et la culture traditionnelle chinoise en France. Parce que c'est vrai que le moment quand je suis partie aux États-Unis, apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens, surtout il n'y a pas de gens au sud de la France qui présentent la musique chinoise. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai eu une invitation de la France de m'inviter de revenir en France pour développer. Et en 2011, donc je commençais d'abord à la Cité de la Musique de Marseille, que j'ai enseigné Cité chinoise. Et après, là actuellement, j'ai enseigné à l'Institut international de musique du monde à Aubagne, qui coopérait avec le Conservatoire de Aubagne et le Conservatoire national de Marseille. Je suis le premier qui a enseigné la Cité chinoise en diplômante. C'est-à-dire que mes élèves pourrait avoir le diplôme français pour ce sitar chinoise, qui est vraiment le premier dans l'histoire.
Et il y a beaucoup de personnes qui apprennent la sitar chinoise. Vous avez
oui.
beaucoup d'élèves.
Oui, j'ai pas mal d'élèves en fait. Ouais. Et en plus, cette année, j'ai deux élèves. Non, l'année dernière, pardon. C'était l'année dernière, j'ai deux élèves qui ont obtenu leur premier diplôme de Guzheng en France.
Et quand on joue de la sitar chinoise en France, comment on se procure cet instrument ? Il est juste présent au conservatoire ou il y a aussi des élèves qui l'ont physiquement présent chez eux ? Comment s'en procure une sitar chinoise ? Faut la faire venir de Chine ou ?
C'est une bonne question. Souvent, les élèves me demandaient comment je pourrais avoir un sitar. C'est vrai qu'actuellement, on a des sitars sur place. En France, dans les endroits que j'ai enseigné, par exemple à l'Institut international de musique du monde à Aubagne, on a de sitars et on a encore deux sitars à Montpellier avec l'Institut Confucius, parce que à Montpellier j'ai enseigné aussi, donc on a des instruments sur place pour les élèves. Après, les élèves souvent ils vont acheter un sitar aussi, donc soit ils ont acheté en Chine directement, soit ils prennent des occasionnels.
Ah oui, d'occasion.
Des occasions. Oui, occasion. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut changer d'instrument parce que comme tous les instruments d'études et les instruments qu'on est vraiment maîtrisé, on joue sur le concert, c'est différent. À un moment donné, on change d'instrument. Donc ça aide pour les nouveaux élèves qui reprennent les instruments des autres.
Et pour cet instrument, j'imagine qu'il y a un entretien.
Oui.
C'est aussi comme, par exemple, un piano, il faut pouvoir l'accorder. Est-ce que là, il y a des spécialistes de sitar chinoise où on apprend à tout faire soi-même ?
Et il faut apprendre à faire de soi-même, ouais. Ouais, ça c'est dès le premier cours, j'enseigne aux élèves comment utiliser les accordeurs pour changer les notes, pour écouter, pour corriger. Et c'est dans toute longue des études, il faut apprendre d'avoir l'oreille pour écouter et corriger. Et après, pour maintenance de l'instrument par rapport aux cordes, tout ça, c'est moi qui vais le faire.
D'accord. Et c'est un instrument à combien de cordes ?
Actuellement, à sa version moderne, standard, il y a 21 cordes.
D'accord. On va écouter un autre morceau.
Ok.
Cauchemar Ala, si je le prononce
Ayla.
Bien. Ayla.
Ouais. En chinois, ça s'appelle Ayla Mouyen.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce morceau ?
Ouais. En fait, c'est un morceau que je composais il y a quelques années avant. En fait, parmi toutes mes compositions, comme c'est un instrument très zen, lié beaucoup avec le bien-être, l'esprit, tout ça. Et donc, beaucoup de morceaux que je composais se présentent la nature ou émotions, tout ça, très joli, très zen. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, j'aime bien créer un morceau qui est différent. J'aime bien créer un morceau qui fait peur, qui fait penser un peu au cauchemar, en fait, voilà. Et donc je composais un morceau qui s'appelle Cauchemar. Je trouvais que c'est vraiment extraordinaire, différent que les autres morceaux que je composais. Et donc, le moment quand je travaillais avec Mickey, et comme tous les autres morceaux, je lui propose, je dis, tiens, Mickey, j'ai un morceau que j'aime bien, que te fais écouter, ce que j'ai composé, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, peut-être on pourrait développer un peu dessus. Et donc finalement, Mika, il a fait son arrangement dessus, il a ajouté les paroles en provençal, donc maintenant ça devient Cauchemar Ayla.
Oui, puisqu'à noter aussi que c'est un morceau que vous réalisez avec Mika Montanero, qui participe avec vous au prochain album Lavande et Jasmin, qui va sortir dans peu de temps. On en dira plus tout à l'heure.
D'accord.
Écoute le morceau.
Thank you.
supanta du monde mes amas. Jésus nous sta, Jésus est bien libre, Jésus est bien libre, li fa ben vivre, li fa ben vivre, pau a chapau, Jésus nous sta, li fa ben vivre. Aïla, aïla, de l'autre main de la main. Aïla, aïla, Jésus pantai, du monde mes amas. Jésus l'espoir, Jésus de mourir. Jésus de mourir, l'amour s'estiro, l'amour s'estiro, et dit la cuore, Jésus n'esquaro, l'amour s'estiro.
Cauchemar, Eila, un cauchemar d'une dizaine de minutes que nous venons d'écouter, qui fait pas trop peur.
Oui, exactement. C'est la version qui fait pas très peur, cette version-là. En fait, j'ai trois versions de cauchemar. Une version que je joue en solo, une version en duo avec Mika Montanaro, donc dans le duo Lavande et Jasmin, et une version dans mon trio Loving Provence. Voilà. Parmi ces trois versions, celui-là, c'est le moins peur.
Donc le cauchemar, c'est un thème récurrent. Alors dans ce mélange de musique traditionnelle à la fois chinoise et provençale, il est notamment dit que l'échange entre les modes pentatoniques chinois et la musique modale occidentale se fait aisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase ?
En fait, dans mes recherches et dans mon création, quand je fais le guzheng, mon instrument, avec les autres musiques, et je trouvais que c'est très intéressant que quand je mélange avec les musiques traditionnelles, c'est-à-dire par exemple comme provençal, ou bien un morceau de fado traditionnel portugais, et la tonalité est directement match, directement ensemble. C'est pas comme quand je fais la création de mon instrument avec musique classique ou avec un piano ou d'autres instruments en fait. Souvent, quand je fais mes créations avec, par exemple, avec une pianiste, actuellement j'ai un autre projet, ça s'appelle Jade Ivoire, et donc avec Amantine. Pianiste, et donc par exemple avec le piano on est toujours en train de chercher la tonalité parce que à cause de mon instrument c'est un pentatonique, voilà, et c'est pour ça que c'est très intéressant dans mon recherche sur musique provençale et aussi sur fado, parce que tous les morceaux que j'ai écoutés, que j'ai entendus type traditionnel, c'est vraiment magique que tout de suite ça ensemble. C'est comme la musique traditionnelle chinoise. J'ai l'impression qu'il y a ce type de choses en commun dans toutes les choses traditionnelles.
Ces deux schémas musicaux qui s'imbriquent bien, c'est assez intuitif en fait. Ça fonctionne.
Exactement, ça fonctionne. Pas besoin de changer les cordes, pas besoin de chercher les tonalités. Directement, on entend, on pourrait jouer. Voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant et c'est vraiment dommage qu'il n'y a jamais une mélange entre la musique traditionnelle chinoise et provençale. Voilà.
C'est la première fois qu'il y a ce projet-là.
Exactement. Je pense que nous sommes.
Vous n'avez pas trouvé d'histoire, en tout cas, de traces d'autres tentatives.
Non, on est vraiment la nouveauté. On est la première. Par contre, la culture provençale est tellement importante en Chine. C'est-à-dire que en Chine, toutes les jeunes, on pourrait dire, toutes les jeunes s'intéressent à la Provence. La Provence a une image romantique, présente l'amour, tout ça, surtout la lavande, tout ça. Et c'est vrai que personne ne savait, en Asie, voilà, savait vraiment la Provence. Elle a ses propres langues, paroles, et aussi la musique. Voilà. C'est pour ça que mon création, c'est à partir de là. Donc, j'aimerais bien développer, montrer aux Asiatiques le côté qu'on n'a jamais trouvé, la beauté de la Provence, en fait.
Mais alors, c'est assez intriguant quand même. Hein. Je ne savais pas que la Provence, c'était connue en Chine. Et il y a notamment marqué dans la description de l'album La Vendée Jasmin que la légende de la Provence antique est très connue en Chine.
Exactement, on a une histoire antique qui raconte la Provence en fait. Ouais.
Mais c'est enseigné, c'est une tradition orale et populaire ou c'est enseigné dans les livres, à l'école
C'est dans le livre, dans les contes en fait, on a ce type d'histoire. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée en France, j'ai l'impression que ça n'existe pas en France. Oui.
Ça n'existe pas. De quoi
cette histoire d'amour. Ah,
d'accord. Ouais. La vision, d'amour qu'il y a autour de la Provence romantique, autour de la Provence. Mm-hmm. Peut-être moins, effectivement. Je ne sais pas. Pour nous, c'est Marcel Pagnol.
Et c'est pour ça que toutes mes créations en 2014, je pourrais dire ça, parce qu'en 2014, je fais une création. En présenter un théâtre musical en fait, ça s'appelle La Vie en Provence. Et donc, j'utilise mon roman que j'ai écrit en 2007. Cet roman s'appelle Love in Provence.
Oui, vous pouvez nous en dire un peu plus d'ailleurs sur. Mais peut-être après, c'est intéressant.
D'accord,
ça.
Ok.
Comme vous voulez. Allez, je voulais pas vous couper.
Ah d'accord, ok. C'est juste pour dire que voilà, comme j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment cette histoire en France, et c'était tellement connu en Chine, donc j'ai créé un roman un peu pour expliquer cette histoire et faire le lien, pour expliquer pourquoi ça n'existe pas en France et finalement ça existe en Chine, qu'il y a une histoire dans ce roman. Et donc, pour expliquer les choses. Donc, finalement, ça crée ce théâtre musical qui prend aussi la partie de mon roman, en fait. Et c'est grâce à ce théâtre provençal, c'est le théâtre musical. Donc, je travaille avec Mika pour la partie provençale. Et finalement, ça crée notre duo lavande et jasmin après.
On va écouter un autre titre puisque l'heure tourne. Il nous reste une dizaine de minutes à être ensemble. On a encore plein de choses à se raconter, mais c'est important aussi d'écouter la musique puisqu'on est là pour parler de ça. Et le prochain titre, c'est Furioso.
Mm-hmm.
Quelques mots sur ce titre ?
Alors, c'est le seul morceau qui est très dynamique, très rapide, et c'est le dernier morceau dans notre album. Mm.
Et cette fois, il n'y a pas de paroles ?
Il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de chant. En fait, dans notre album, il n'y a que ce qu'on vient d'écouter, Cauchemar Aïda et Palakai. Ce sont des deux chansons dans notre album. Mm. Et Furioso, c'est vraiment un morceau qui est totalement différent que les autres, très rapide pour terminer l'album en fait. Ouais.
Furioso, un titre issu de l'album à venir, Lavande et Jasmin, une collaboration avec Sisi Chao, qui joue de la musique de la sitar chinoise, musique traditionnelle chinoise, et Mickey Montanero, qui lui joue de la musique traditionnelle provençale, notamment le galoubet, flûte à bec et le tambourin. Cet album, on n'a pas de date précise pour sa sortie.
On espérait en juin cette année, à cause de Covid, donc on est un petit peu en retard.
Ouais. D'accord, il y a du retard pour tout, du coup. Les choses prennent leur temps, mais elles arriveront. À noter aussi que ce projet, c'est en coproduction avec Art et Musique en Provence et l'Institut International des Musiques du Monde.
Mm-hmm.
Et vous êtes sur plusieurs projets, on va en parler, et vous êtes aussi lauréate d'un prix, de la 4e édition des prix de musique d'ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix ?
D'accord, c'est un prix de musique du monde qui est organisé à peu près chaque année. Donc j'ai de la chance cette année, j'ai gagné le lauréat donc, à Paris. Et sur France Musique, il y a encore des vidéos d'interviews et le concert en direct qui sont enregistrés. Si ça t'intéresse pour les spectateurs, ils pourraient chercher sur France Musique, taper Sissi Cho et vous pouvez trouver les vidéos en live.
En complément à cette interview, on pourrait encore vous écouter parler de votre création et écouter d'autres morceaux.
Exactement, ouais. Parce que moi, je suis plutôt soliste. Donc, quand je fais le concert, je suis en solo. Et donc, ce prix que j'ai gagné, c'est aussi autant soliste dans la musique du monde. Ouais. Et après, à côté, j'ai encore trois projets. Et donc, celui qu'on vient d'écouter aujourd'hui, c'est duo avec Musique Provençale, donc avec Michael Montanaro. Et après, j'ai un trio plutôt en musique moderne, musique classique, jazz, tout ça, avec piano et percussion. C'est vraiment une autre formule en fait. Voilà.
Et c'est avec qui ?
C'est avec Ludovic, pianiste, et Fabien, percussion. Mmh. Voilà. Qu'on fait des créations sur la musique classique. Donc, moi, je arrangeais sur la musique classique et en mettant mon instrument, en mettant mon nouveau composition dessus en fait.
Il a un nom ce projet ?
Ça s'appelle Love in Provence.
Love in Provence, d'accord. Ouais. Mm-hmm. Ah, Love in Provence.
Love in Provence, ouais, ouais, ouais. Et le spectateur pourrait aussi écouter les morceaux qui est déjà enregistré sur Facebook si vous tapez Love in Provence en anglais ou sur Sissi Cho. Vous pouvez trouver déjà des vidéos de concerts. On a enregistré en août l'année dernière sur Théâtre Antique de Arles.
Et vous avez un autre projet aussi, avec
oui.
Un jeu vidéo.
oui, j'ai participé à la composition sur un jeu international de vidéo qui va normalement sortir cette année aussi. Ça s'appelle Humankind. Donc je suis très heureuse de participer à ce projet invité par le compositeur Arnaud Roy. Qui est un grand compositeur dans le jeu vidéo, donc je suis très contente de participer à son projet pour la partie musique chinoise traditionnelle sur deux époques différentes dans ce jeu vidéo.
Est-ce que vous avez un site internet ou une page Facebook personnelle où on peut trouver l'ensemble de vos projets, peut-être en savoir davantage sur vous ?
Exactement, sur Facebook, vous pouvez me trouver aussi, c'est Sissi Cho sur Facebook, et après sur mon site internet, c'est www.sissi-cho.com.
Il y aura aussi toutes ces informations sur notre site internet fréquencemistral.com. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez réécouter cette émission en différé, en podcast. Et merci d'être venu, Sissi Cho, dans nos studios aujourd'hui à Manosque.
Merci Mathieu et merci pour votre invitation et merci à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter.
Pour rappel, donc, c'est votre album qui va sortir avec Mickey Montanaro. Montanaro, pardon, c'est l'album Lavande et Jasmin, une rencontre entre la musique chinoise traditionnelle et la musique provençale traditionnelle.
Mmh.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée.